C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Claque, le Claquendrier. Un jour, un film. Oui, vous écoutez. Depuis votre canapé, votre fauteuil, ou pendant les quelques instants, vous pouvez sortir de chez vous, peut-être. C'est l'heure de la petite douceur du matin. Et aujourd'hui, on remonte dans le temps, on part dans les archives du cinéma, mon cher Thierry.
Mais oui, tout à fait. Et en plus, on repart même dans nos propres archives avec un super copain. Un copain qu'on avait vu au festival du film coréen l'année dernière et qui avait passé la quasi-intégralité du festival avec nous. Quel bon plaisir. Un copain qu'on a revu également pour parler de films un petit peu vieux lors de notre petit épisode sur la Cinéthèque. Et un copain qui, quand il n'est pas loin avec sa DeLorean en train d'aller invectiver les films des années 20 absolument muets, se prête à l'exercice du podcast pour nous parler de ses trouvailles et découvertes passéiste, mais tout autant merveilleuse. C'est Quentin. Coucou Quentin.
Coucou. Coucou Thierry et Thomas.
Quentin, dans la rencontre du 7e art. Oh oui, quel plaisir de te retrouver. Et qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui?
Eh bien, je vous ai ramené une petite archive, comme a dit Thierry. Un film d'un temps un peu oublié de beaucoup et que j'ai voulu ramener un peu à la lumière. L'Inhumaine de Marcel Herbier de 1924.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film? De quoi ça parle?
Alors, tout à fait, je vais le faire avec grand plaisir. Donc, c'est un film qui parle donc notamment d'un personnage un peu mystérieux, une cantatrice renommée dans le tout Paris de l'époque, une cantatrice qui s'appelle Claire Lescaut. Claire Lescaut, donc, qui est cette fameuse inhumaine qui donne son nom au film, qui... s'attire toutes les faveurs des hommes, des élites, si je puis dire, de l'aristocratie parisienne de l'époque, qui sont assez genoux pour s'attirer ses faveurs jusqu'au jour où elle annonce que elle en a un petit peu marre de tout ça et qu'elle choisit de partir faire le tour du monde et de voyager seule, comme elle dit, à moins que quelque chose ne la retienne. Et donc, lorsqu'elle invite tous ces hommes de tous horizons et de tous âges à participer à un dernier dîner mondain, une place est vide et un jeune homme arrive en retard, un jeune ingénieur passionné de technologie de l'époque, qui arrive en voiture et qui donc arrive au moment fatidique où elle fait cette annonce. Et lui, plus que les autres, se retrouve affecté par cette nouvelle, lui qui était complètement enivré par le charme de cette femme charismatique et qui donc lui avoue après longues hésitations et longues invectives de la part de ses concurrents, lui avoue qu'elle ne supporterait pas son absence et qu'il serait prêt à se sauter la vie si elle partait sans lui. Et donc, le film va donc raconter en fait le prétendu suicide de ce jeune homme qui va partir dans une sorte de divagation qui va le pousser aux frontières de la mort, et donc, petit à petit, face à ce prétendu suicide, la célèbre chanteuse va quelque peu briser sa carapace et petit à petit révéler une humanité dans cette inhumanité que tout le monde avait constatée jusqu'ici.
Oh, et pourquoi tu choisis ce film?
Eh bien, je l'ai choisi sur un coup de cœur soudain et inattendu. Je l'ai choisi pour bien des raisons. Déjà, moi, le cinéma de l'époque m'intéresse beaucoup parce que j'aime faire mon intéressant et me démarquer des autres. Non, plus sérieusement, parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de recherches, énormément d'idées, de surprises dans ce cinéma de l'époque, notamment le cinéma français des années 20, qui était très avant-gardiste, porté par des esprits assez brillants comme Abel Gance, René Clair, Germaine Dulac et... Ivan Mojoukine ou encore Marcel Herbier, donc. Il y a énormément d'idées, de recherches visuelles, d'esthétiques, quelque chose de très, très singulier dans le cinéma de l'époque. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup aussi l'esprit général des années folles parce qu'il y avait vraiment toute une révolution artistique et que, quelque part, à l'époque, une soif de nouveauté et d'ambition sans faille. Et je trouve que L'Inhumaine, c'est un des films que j'ai vu qui condense le mieux et représente le mieux en fait cet esprit en général. C'est-à-dire que pour être très plus synthétique dans mon avis sur le film, si on peut peut-être, pour juste citer un défaut avant de multiplier les éloges, c'est un film qui a beau avoir un scénario simple et assez classique, il m'a complètement bluffé sur la forme. En fait, c'est simple, quand je l'ai regardé, j'ai passé mon temps à faire des captures d'écran de plans qui m'ont impressionné, séduit et marqué. Il y a vraiment une idée par plan, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, d'intrigant, de beau. Et donc pendant 2 heures, en fait, il y a vraiment tout un ensemble d'idées géniales. Et en fait, ce n'est pas qu'une question de cinéma au sens effet visuel et purement cinématographique. C'est qu'en fait, Marcel Lherbier, quand il a fait son film, il s'est entouré d'autres personnes importantes de l'époque dans le domaine, notamment au niveau des décorateurs. Je pense donc à Fernand Léger, Alberto Cavalcanti, Robert Malestevens et le futur cinéaste Claude Autant-Lara. Donc beaucoup de décorateurs en fait qui ont chacun eu un rôle sur un décor en particulier. Donc par exemple, si je me rappelle bien, Claude Autant-Lara avait fait le jardin d'hiver. Fernand Léger, c'est lui qui a fait le décor, le superbe décor du laboratoire de Einar, donc le jeune homme épris de la chanteuse, qui a vraiment des formes, des motifs géométriques qui évoquent vraiment le style de l'époque. C'est aussi le costumier Paul Poiret qui a fait donc les costumes du coup. Donc en fait, c'est vraiment plein d'esprits géniaux de l'époque qui se sont mis ensemble sur ce projet-là et qui donne vraiment, pour moi, naissance à cette œuvre ultime de Art déco des années 20. Et j'ai littéralement adoré parce que c'est vraiment un univers que j'adore.
Mm-hmm, ça donne très, très envie. T'avais vu d'autres films de ce réalisateur ?
Oui, de mémoire, un autre qui est probablement son plus connu et considéré comme étant son chef-d'œuvre. Donc, c'est L'Argent, qu'il a réalisé 4 ans plus tard, en 1928. Également un très bon film. Donc c'est l'adaptation en fait du... alors je ne sais plus si c'est une nouvelle ou un roman d'Émile Zola. Pareil, c'est un film assez long, hein, qui dure plus de 2 heures, et qui a été restauré par Lobster également, qui a été restauré et édité par Lobster, comme l'Inhumaine. Et pareil, un très bon film sur... alors je ne saurais plus exactement tout résumer, parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais c'est plus... comme ça l'indique, c'est sur l'argent, donc c'est le personnage principal, si je me rappelle bien, c'est un banquier d'affaires. On y retrouve également Brigitte Helm, donc qui est l'actrice principale de Metropolis, qui joue une femme riche, un peu sans scrupules. Et c'est un film que j'avais trouvé assez étonnant en termes de timing, si je puis dire, parce que finalement, ça raconte vraiment les excès que peut provoquer l'argent, et c'est juste un an avant le crash de 29, donc c'est assez prémonitoire en soi. Et je triche un peu parce que je regarde en même temps, mais j'en ai vu un autre de Marcel Lherbier, un autre parce que je me disais bien qu'il y avait, une faille. C'est Feu Mathias Pascal de 1926, qui est donc un film avec Ivan Majoukin, qui est un de mes acteurs préférés de l'époque, un des plus grands pour moi du cinéma muet. Où en fait, pareil, ça fait un petit moment que j'ai vu, donc je pourrais pas rentrer dans un résumé exhaustif, mais c'est sur un homme qui perd tout son argent et sa fortune. C'est un peu une sorte de drame familial, et il finit par un peu disparaître des radars et passer pour mort. Et donc la première partie du film, c'est avant cette ruine, et la deuxième partie, c'est un peu cette renaissance et ce retour dans ce monde qu'il avait oublié. Donc le film est bien aussi. Lherbier aimait bien les formats longs, parce que celui-là, il dure 2h45, je crois. Donc celui-là, j'avais trouvé, pour être tout à fait honnête, un peu plus longuet. Pas juste parce qu'il est long, mais parce qu'en termes de rythme, il était un petit peu plus... un peu plus long. Mais bon, Ivan Majoukin, quoi. Et Marcel Lherbier, ça reste quand même un cinéaste assez incontournable de l'époque. Un de ses représentants de l'avant-garde... avec toutes les idées et tout le génie qu'avaient ces cinéastes à l'époque.
Et alors, dis-moi Thierry, où peut-on trouver ce film L'Inhumaine de Marcel Lherbier ?
Alors, ça me semblait pas simple, mais finalement, il y a une possibilité pour ceux qui, justement, ne voudraient pas essayer d'acquérir le film en version physique, ce qui, j'imagine, de toute façon, doit être très compliqué. Il est disponible à la location chez Orange. Donc, j'imagine que, par contre, il faut une box, évidemment, du même nom. Et on peut l'avoir à 2,99 ou à 8,99 en achat, et c'est en HD.
Voilà. D'accord, voilà. Il est pas sur la Cinéthèque ou un truc comme ça, d'accord.
Il est pas indiqué comme étant sur la Cinéthèque. Je peux peut-être me tromper, mais là, de ce que j'ai comme information, c'était que disponible sur Orange.
Est-ce qu'on sait si c'est la version restaurée? Parce que tu me disais, Quentin, que le film avait été restauré récemment.
Oui, alors, pour compléter ce que dit Thierry, il existe une version physique qui est éditée par Lobster avec une version DVD Blu-ray. Pour la parenthèse, je l'ai commandée.
pour donc, Noël, il... évidemment.
Voilà. Bah,
tu le prêteras à nos auditeurs.
Le temps qu'il arrive avec le confinement, tout ça, hein. Mais plus sérieusement, il existe une version physique. Hein. Lobster l'a édité en DVD Blu-ray également, donc on peut le trouver sur la Fnac notamment, si on veut la version restaurée, parce que je sais que je suis tombé dessus sur Univers Ciné aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il existe deux versions du film dans le sens où il y a deux accompagnements musicaux. Il y a un accompagnement avec orchestre et un autre qui a été fait sur la base de la partition d'origine qui était perdue.
Ouais.
Donc le chef, enfin le musicien, c'est alors je vais peut-être écorcher son nom, mais c'est AJ Tafial. Donc il a fait un accompagnement musical aux sonorités assez jazzy que je trouve très adapté au film. C'est la version avec laquelle j'ai découvert, donc je le trouve très adapté. Et donc sur Univers Ciné, c'est la version des années 80, donc avec une image un peu moins bonne que la version de Lobster, et c'est avec l'Alloy Orchestra, donc c'est l'autre version, et la version physique de Lobster, donc il y a le choix, et pour le coup en image, donc c'est la version restaurée de 2015 avec, donc il y a quand même l'Alloy Orchestra disponible, je crois, et pour sûr la bande originale d'AJ Tafial avec ce côté un peu jazzy que je recommande vivement pour découvrir le film.
Merci Quentin.
J'ai beaucoup parlé.
Non, mais ça donne envie en plus en tout cas.
J'ai pas tout dit, tu vois, j'ai trop de choses à dire.
C'est ça, il y a tellement de choses à dire quand on aime un film comme ça, des fois on ne s'arrête plus. On se retrouve encore demain pour un ou une cinéphile qui aura encore beaucoup de choses à dire sur son film de Noël. À demain.
À demain.
Bisous, bisous.
Bisous, bisous.
Salut.